Et de très bonnes émissions. Continuez comme cela. Au revoir.
Salut Daniel, chaque jour à 15h, c'est l'heure de la messe pour mon père, l'heure à laquelle il écoute religieusement ton émission. Ça fait des années que ça dure, et même si l'horaire a parfois changé, l'attention, elle, n'a pas faibli. Et voilà, ça fait 35 ans aujourd'hui que ma mère supporte ça. Juste un clin d'œil donc, sans déranger ce précieux rituel. Tu te doutes que je ne pouvais pas les appeler à cette heure-ci, pour embrasser deux de tes plus fidèles AMG, qui luttent côte à côte depuis toutes ces années pour un monde meilleur. À eux donc, qui m'ont appris qu'il y a toujours une place pour le rêve. Allez Daniel, merci pour tes émissions et vive la révolution! En écho à la personne qui a appelé vendredi dernier pour parler de sa situation de commerçante de proximité, profession qu'elle exerce avec son époux, je voudrais à mon tour témoigner de mon histoire. Je suis également commerçante, j'exploite une charcuterie traiteur avec mon frère qui a suivi lui-même cette formation scolaire. Nous travaillons en moyenne 60 heures par semaine, 7 jours sur 7, et nous prenons pas tout à fait 2 semaines de vacances par an. Eh bien, les temps sont durs, puisque nous sommes seulement en mesure de verser un salaire équivalent à un SMIC à mon frère. Et oui, il est divorcé avec 2 ados à assumer, et moi, je travaille bénévolement. Je suis la gérante de la société, donc je n'ai pas de salaire. Mon mari accepte de m'assumer, moi et nos 3 enfants, en espérant qu'un jour la roue tournera. Il faut dire que la concurrence est rude dans notre ville ouvrière, qui a vu fermer toutes ses entreprises ou presque, à commencer par la mine. Aujourd'hui, les 4 supermarchés qui entourent notre ville sont devenus le lieu de rencontre des habitants. Aussi, les maires n'ont de cesse de vouloir développer ces zones commerciales, sources d'emplois, précaires peut-être, mais qu'importe. Notre ville connaît des problèmes de stationnement, mais Dixit, notre maire, c'est le cadet de ses soucis. Certains commerçants sont étranglés par les charges financières et de travail. Alors je lance un appel à tous les jeunes qui envisagent d'ouvrir un petit commerce. Si vous n'avez pas assez d'apport personnel pour ouvrir une grande surface, alors changez d'idée. Le petit commerce, c'est le rêve du pauvre.
Bonjour Daniel, je viens d'entendre ton émission donc sur la burqa là. Moi, j'aime beaucoup tes émissions, je les écoute tout le temps. Je vais sur labas.org pour pouvoir écouter celles que j'ai loupées. Par rapport à la burqa, tu vois, je suis pas du tout d'accord. D'accord. C'est-à-dire, moi, ces gens qui sortent complètement entourés dans un linge, je trouve ça vraiment nul à chier. J'entends un type parler là par rapport aux maires communistes, mais moi je trouve que ce type, il instrumentalise aussi. Lui, il a une façon de parler extrêmement politique, et moi franchement, les politiques, je trouve que ce sont surtout des manipulateurs, donc des gens à qui on ne peut pas faire confiance, qu'ils soient dans un camp ou dans un autre. Par rapport à la burqa, je pense que chacun est libre de penser comme il veut, mais c'est vrai que c'est très désagréable de croiser des gens qui sont que tu n'arrives pas à voir et que le bon sens fait que il n'y a pas à vivre un truc pareil. Si vraiment t'as pas le droit de, on n'a pas le droit de te voir, eh ben, ma foi, tu restes enfermé. C'est comme ça. Donc voilà, pour une fois, j'ai trouvé que c'était. J'ai trouvé ton émission assez orientée et ça ne me plaît pas. Par rapport au minaret, je suis tout à fait OK, qu'on laisse construire des minarets parce que ça ne dérange pas et même c'est très beau. Par rapport au voile, pas au voile, à ce linge-là, derrière lequel on ne voit rien, ça me dérange profondément. À part ça, joyeuses fêtes de Noël à tout le monde. Au revoir, c'était Sylvie, en Suisse.
Allô, les bouquets albanais associés, là? Là, qu'est-ce que j'entends, là, encore, là, vous êtes pour la burqa, pour ceci. Mais moi, je vous conseille une chose, que dans l'école, on apprenne l'arabe, et qu'on se convertisse tous à l'islam. Enfin, que vous convertissiez tous à l'islam. Ça va où, là? La France, c'est un pays chrétien. Moi, je veux bien une mosquée dans France, et une église en Arabie Saoudite, ou au Soudan, ou au Yémen. Hein, ok? Quand vous voyez que dans un pays musulman, comme l'Arabie Saoudite, vous ne pouvez pas avoir une petite croix au bout d'une chaîne sur votre cou qui soit visible, parce que c'est pas bien, c'est même interdit. Que vous voyez que les gentils musulmans, l'islam, c'est une religion d'amour et de compréhension. Ben, au Pakistan, les musulmans pakistanais, ils ont juste brûlé vif 8 Pakistanais chrétiens. Vous vous rappelez pas de ça, il y a 3-4 mois? Vous n'en avez pas parlé de sa bande de bâtards? Bande de vendus aux Arabes. Moi, ce que je veux, c'est que vos filles elles se fassent enculer par les Arabes et que vos fils soient castrés et qu'ils soient des castrats de harems musulmans. C'est ce qui va vous arriver, ça. Et je vous le souhaite.
Flatter les bas instincts, c'est flatter les bas instincts. C'est la critique faite par Jean-François Baroin au sujet de la question de l'identité nationale telle qu'elle a été soulevée par Éric Besson. N'oublions pas qu'Éric Besson fait partie d'un gouvernement, il n'est pas seul. Exacerber les bas instincts, le racolage électoral, c'est une vieille coutume. Édouard Herriot, si j'ai bonne mémoire, disait « La politique, c'est comme l'andouillette, il faut que ça pue la merde, mais pas trop ». Voilà, joyeux propos en ce Noël, ce 25 décembre 2009. Aujourd'hui, dans la série rétrospective, je vous propose de retrouver Jacqueline. Ça va nous donner de l'énergie, ça va nous donner de l'air, et j'ose dire une certaine profondeur. C'était un reportage de François Ruffin. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, et joyeux Noël à tous.
Bonjour, c'est Virginie, et je viens d'écouter votre émission de jeudi ou vendredi sur la planète. Et je suis choquée, je suis révoltée, je suis triste d'entendre quelqu'un qui représente les Nations Unies, donc la paix, le partage, parler en des termes si neutre et si finalement pro-capitaliste qu'ils vident de leur sens tout le programme des Nations Unies. La question s'était posée de savoir si le programme des Nations Unies pour l'environnement devait devenir une structure plus normative et plus forte. Je pense qu'il est temps d'y venir et je pense qu'il est temps de mettre sur la scène internationale des notions de partage, des notions de décroissance pour les pays riches, pour que finalement on aboutisse à quelque chose. Et tant que cela ne sera pas fait, je crois que nous n'avancerons pas. Voilà, je remercie le journaliste pour ces questions qui m'ont semblé pertinentes et qui, hélas, n'ont pas mené à une réaction qu'on aurait pu espérer.
Un grand bonjour aux auditeurs de France Inter qui ont, j'espère, quelque chose entre les oreilles. Ceci est un message à toutes les infirmières. Donc, je suis moi aussi infirmière depuis plus de 25 ans. Et aujourd'hui, je veux vraiment vous faire part de ma colère. Une fois de plus, on use et on abuse de nous, les infirmières. D'après vous, grâce à qui le fameux plan de vaccination contre la grippe A est-il possible? Qui pense aux infirmières réquisitionnées de force pour permettre l'ouverture des centres de vaccination de 8h à 22h du lundi au dimanche? Nous sommes réquisitionnés du jour au lendemain, même si nous sommes en congé. Personne ne sait nous dire si nous serons payés un jour, quand, combien, mystère. Tout le monde se fiche des répercussions que ces réquisitions peuvent avoir sur notre travail de tous les jours ou sur notre vie privée. Où sont les promesses de Mme Bachelot qui, depuis des années, nous promet de nous reconnaître dans notre diplôme d'infirmière Bac plus 3? À ce jour, rien n'est fait. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais une infirmière qui débute gagne tout juste 1300 euros par mois. Moi, je trouve que c'est tout bonnement scandaleux. Vous le savez bien, nous les infirmières, nous avons donc des responsabilités très importantes, hein, des compétences multiples, et nous avons des contraintes de travail très importantes, les horaires variables, le travail de nuit. Alors le temps des cornettes, c'est fini depuis longtemps, je pense. Nous ne sommes plus ni bonnes, ni connes, ni nonnes, comme le disait le fameux slogan de nos manifestations dans les années 80. Pour finir, eh bien, je voudrais quand même dire un grand merci à toutes mes collègues infirmières qui accomplissent un travail formidable. Et puis je vous interpelle, vous les médias quand même, parce que plutôt que de nous bassiner avec Johnny, eh bien, moi je préférerais quand même que vous vous intéressiez de plus près à ce qui se passe dans les centres de vaccination et puis peut-être aussi dans les autres pays d'Europe. Je vous remercie. Au revoir.
Ça sonne.
C'est la quiche.
Salut, c'est Daniel Mermet, et là-bas, j'y suis avec François Ruffin et Jacqueline Lortiwa. Les minutes d'essentiel.
Flight number 2, arriving from New York.
Bonjour, je m'appelle Jacqueline, j'appelle de Cergy. C'était pour vous dire que je vous aime. Je suis greffée de toute la colonne vertébrale, du cou jusqu'aux fesses. Je suis tout en métal et il me reste 7 vertèbres de libre. Les cervicales, donc mon cerveau fonctionne parfaitement. Et si mon corps est scaphandre, ma tête est restée papillon. Et donc je vous écoute très souvent à 15h, je rigole quand vous êtes relégué à cette heure de non-écoute et que vous avez réussi à continuer à avoir autant d'auditeurs. J'adore Daniel Mermet, j'adore les interviews de François Ruffin, j'adore les autres aussi, les mecs du monde diplo, les messages des LMG, je rigole toute seule en vous entendant. Vous êtes ma morphine, mes opiacés. Grâce à vous, vous faites passer d'une échelle de douleur de 7-8 à 3-4. Voilà, donc c'était une déclaration d'amour. Mon capital de séduction ayant assez fortement diminué et étant rangé des voitures, je peux me permettre d'utiliser ce mot fort avec une certaine dérision. Ma demande est la suivante. J'ai des choses à dire sur la santé, sur la réforme Fillon, sur l'hôpital 2007. Bon, j'en ai pas pour longtemps et donc j'ai envie de me faire plaisir. Si je pouvais dire le plus grand mal de cette droite ridicule, de ce Fillon grotesque, tout le mal que je pense sur la façon dont on fossoie la sécu. Donc voilà, je suis désolée, j'avais dit que je pleurerais pas, mais ben, c'est comme ça, c'est la vie.
Daniel Pascal à Brest, où il fait un temps absolument magnifique aujourd'hui, c'est assez rare pour être souligné. Je t'appelais pour te suggérer de refaire un florilège des messages d'auditeurs d'AMG. Ce qui me fait penser à ça, c'est celui que j'ai entendu tout simplement hier, de cette auditrice dont je ne me souviens pas du prénom malheureusement, je n'ai pas réécouté depuis, je ne sais pas si d'ailleurs elle le mentionne, les cervicales qui ne fonctionnent plus. Ce message, bien sûr, serait à mettre en exergue de ce florilège, tant il est bouleversant. Je pense qu'il y a des fois comme ça où tu, en entendant ce type de message, tu dois te dire, en fait, mes 20 années de là-bas, si j'y suis, n'ont pas été vaines. Rien qu'un message comme ça suffit à justifier 20 années de là-bas, si j'y suis. Merci à toi. Salut Daniel. Ciao.
Si j'avais su que je t'aimais tant, je t'aurais aimé davantage. C'est beau, hein? Oh, qu'est-ce que c'est beau. Si seulement tu pouvais me dire que je te manque. Ça aussi, c'est beau, hein? C'est beau. Mais à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à la bien-aimée ou au bien-aimé? Eh ben là, oui, c'est le cas aussi, mais ça s'adresse carrément à la vie. Si j'avais su que je t'aimais tant, je t'aurais aimé davantage. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Eh oui, aujourd'hui, c'est le jour des banalités. On enfonce des portes ouvertes. Sauf qu'on oublie de se demander sur quoi ouvrent les portes ouvertes, les portes qui sont déjà ouvertes. On va voir que ça ouvre aujourd'hui là-dessus. Sur la vie, sur le handicap. Vous avez compris, Jacqueline est assez esquintée, elle a un handicap qui a transformé son corps en scaphandre, dit-elle, mais vous allez voir, la tête, c'est celle d'un papillon. Et pourquoi elle a une tête de papillon, cette Jacqueline? Parce que c'est une lutteuse, elle a jamais baissé les bras. Et dos au mur, elle continue de se battre. Et c'est notre histoire à tous, bien sûr. On ressemble tous à Jacqueline. Parce qu'évidemment, elle est esquintée. Et nous pas. Vous êtes sûr qu'on n'est pas un peu esquintés? Vous êtes sûr qu'on n'est pas tous, au fond, un peu handicapés? Non? Vous avez déjà essayé de voler? Moi, j'ai essayé, je me suis rétamé. Au fond de la mer, je ne tiens pas longtemps. Donc, on n'est pas complet, on est mutilé, il nous manque quelque chose. Vivre, c'est vivre un manque, c'est ce que fait Jacqueline. Mais elle se bat. Et c'est... Vous allez voir, et vous allez... passer cette heure avec elle, et François Ruffin qui est allé la voir. Et ce qu'elle a inventé aussi, elle a inventé les minutes essentielles. Les minutes d'essentiel. Pas mal, l'essentiel. Et bien je crois que cette heure, grâce à elle, grâce à Jacqueline, est une heure essentielle.
Bonjour.
Tu as les mains dans la boîte?
Je vous serre le
poignet. Justement, je pensais préparer une pâte en votre attention. Est-ce que mon dos est complètement cassé, mais ce que j'appelle les périphériques, c'est-à-dire les jambes, ça fonctionne parfaitement.
Donc, pour préparer une pâte, il y a les mademoiselles. Il révise Nicolas Machiavel et Thomas Hobbes pour son bachot. Et alors le dictionnaire est ouvert à la page bonheur.
Voilà, on est chez Jacqueline Lortiwa, donc. Et vous avez compris, elle va nous expliquer tout. C'est elle qui a voulu qu'on vienne la voir, sa vie, ce qui lui est arrivé, et la façon dont elle se bat, elle continue inlassablement de se battre, et je vous le disais, ce qu'elle a inventé, les minutes d'essentiel, elle appelle ça les minutes d'essentiel, parce qu'elle dit, il y a des choses dont on parle jamais, le rapport à la vie, à la mort, à la souffrance, à la maladie, et voilà, elle s'est dit, mais à partir de ce constat, eh bien, il faut faire des minutes d'essentiel. C'est ce dont elle va nous parler, mais ça va passer par... vous allez voir, suivez la conversation, et puis il faut qu'on ait un œil quand même sur la quiche.
Jacqueline, là on se trouve chez vous, à Cergy. Donc on a terminé de préparer la quiche Lorraine. On allait chercher du laurier dans le jardin. On s'est fait livrer les courses manquantes par le Franprix du coin. Aujourd'hui, vous portez un corset en plastique qui enserre votre poitrine au-dessus d'un chemisier bleu. Vous habitez dans une maison qui est confortable. Il y a un piano. Il y a une cuisine avec un four hyper compliqué qu'on ne comprend pas comment le programmer. Mais qui vous étiez donc avant d'avoir des gros soucis de santé?
J'ai eu une ancienne Splendeur, j'ai travaillé, j'ai été spécialiste sur les questions d'emploi et de travail pendant 40 ans. À une époque, on m'a d'ailleurs refusé mon sujet de thèse parce que mon professeur trouvait que c'était pas un sujet, l'emploi, dans les années 70, parce que ça marchait tout seul. Hein. Il faut bien savoir que à l'époque, la NPE... dans les années, quand elle a été créée en 67 et dans les années 70, elle a été créée pour résoudre les problèmes de main-d'œuvre et les gens racontaient qu'ils allaient recruter de la main-d'œuvre sur les quais de métro. Et la désorganisation industrielle, c'était l'écoute de l'entreprise. Et moi, ce qu'on m'avait demandé de faire en tant que conseil, eh ben, c'était de chercher comment l'entreprise qui se décentralisait allait trouver les meilleures main-d'œuvre, les meilleurs terrains, les meilleures dessertes pour leurs produits, etc.
La décentralisation, c'est un moment où on découvre que finalement Paris devient trop petit, trop coûteux aussi, à la fois parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre et donc la main-d'œuvre doit être plus payée, et aussi en locaux. Donc à ce moment-là, on se décide de les envoyer partout en France. Et là, vous, dans ce cadre-là, vous devenez une alliée du grand capital alors.
Ah, mais alors justement, moi, j'ai passé mon temps à essayer de défendre le point de vue du travail.
Là, vous enlevez votre corset.
J'enlève mon corset parce que le fait de parler avec vous et de me sentir reconnue dans ce que je fais et de parler sur quelque chose qui me passionne et qui me bouleverse toujours autant. Du coup, je sens plus la douleur et je... voilà. Non, on est en plein dans les minutes d'essentiel. C'est-à-dire, on parle de quelque chose de tellement essentiel que j'oublie complètement que j'ai mal. Donc voilà. Et donc, la décentralisation industrielle, rien n'était ni trop beau ni trop grand pour les entreprises. Alors, vous voulez des locaux, vous voulez des desserts, vous voulez des tournées à gauche pour camions, vous voulez ceci, vous voulez cela. Et actuellement, ce qu'on fait, justement, quand on donne du fric aux entreprises, les dispenses de charges sociales, etc., on considère que c'est l'entreprise qui crée l'emploi. Non.
Donc là, vous étiez comme ça. Alors, avant votre maladie, vous étiez comme ça tout le temps, c'est-à-dire râleuse, gauchiste.
Absolument. Et pourtant, j'ai tout le temps trouvé du travail.
La quiche, elle ne va pas brûler, là ?
Normalement, elle sonne. Elle sonne quand elle est prête.
On disait, vous étiez râleuse, gauchiste. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un seul coup, vous portiez des corsets? Ça va pas, là, hein? Vous avez mal?
Non, mais c'est pas grave.
Bon, on peut arrêter, hein?
Non, c'est pas grave. Et donc, Non, j'ai un élancement, mais c'est pas grave.
Mais si, mais arrêtons deux minutes.
Non, je vais prendre un calmant. Et donc,
Vas-y.
Je prends ça.
Je prends ça tranquillement, vous l'avez à l'eau ?
Non, il faut le mettre sous la langue, ça fait plus d'effet. Donc voilà. Donc.
Attendez.
Oui, c'est des espèces de pics de douleur.
Vous voulez un verre d'eau ?
Non, c'est bon. Donc, je reprends mon histoire. Si je suis...
Vous avez encore mal, non ?
Émue, c'est pas seulement parce que j'ai mal. C'est aussi parce que je suis émue de cette question. Parce que c'est tout mon parcours. C'est-à-dire que... Il y a des moments où je souffre tellement que j'ai envie de me flinguer. Et en fait, je tiens uniquement... Parce que les gens, ils comptent sur moi. Comme je me suis fait opérer à 58 ans, c'était beaucoup trop tard. C'est trop tard et j'ai plein d'effets secondaires. C'est très difficile. Et en fait, je galère. Mais, donc à certains moments, je me dis que mon opération, elle a raté. Et je tiens parce que... Je tiens beaucoup à ce que je serve. Et j'ai appris dans ma vie militante que la personne est un expert d'usage. C'est-à-dire que je me retrouve avec des gens qui sont dans le technique, dans l'administratif, avec des chirurgiens qui dépècent, qui coupent, qui outillent, avec des médecins... de médecine générale qui connaissent rien aux choses. J'ai des choses complexes. J'ai 5 sortes de douleurs. Donc chacun, je suis découpé en tranches. Chacun s'occupe de sa spécialité. Personne ne regarde les choses transversalement. Donc je ne suis pas une personne. Je suis un peu à la cobaye. Et donc moi, j'essaye de faire la globalisation et de revendiquer une expertise qui est l'expertise d'usage. C'est-à-dire, moi, j'ai écrit à mon chirurgien, c'est vous qui m'avez posé mes prothèses, mais c'est moi qui les vis. Donc moi, je suis d'égal à égal avec vous. Et en fait, mon chirurgien, il fait des visites chirurgicales, il regarde si je vais bien sur le plan chirurgical, il regarde si le matériel, il n'a pas bougé, et il envoie un compte-rendu chirurgical à mon médecin traitant, et jamais à moi. Donc j'ai pris l'habitude, tous les 6 mois, de lui envoyer une lettre, un compte-rendu d'expertise d'usage, moi, en tant qu'expert, ce que je pense de ce que je vis. Et je lui explique ma galère. Alors je lui ai envoyé récemment mon dernier compte-rendu d'expertise d'usage, et il n'a pas répondu.
Et auparavant, il répondait ?
Il n'a jamais répondu. Mais par contre, je l'ai mis sur Internet. Donc il suffit de faire www.ressources-solidaires.org. Ça sonne.
C'est la quiche.
Alors attendez, on va voir si il y a une quiche.
Ah, elle est là. C'est impeccable.
Elle est cuite.
Ah oui. Est-ce que vous pouvez la prendre parce que c'est un peu bas pour moi?
Ouais, peut-être un peu pas cuite quand même.
Vous pouvez la tester avec un couteau.
Peut-être un tout petit peu mou encore.
Ouais, donc un quart d'heure de plus.
10 minutes ici.
Ouais. Vous appuyez jusqu'à ce que ça soit.
Comment ça s'est, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous tombiez malade ou...
Bah, disons que j'avais des problèmes de dos depuis l'âge de 12 ans. J'ai été soignée n'importe comment, de façon extrêmement barbare. J'ai été pendue, étirée, plâtrée, corsetée et tout ça. Et à 19 ans, j'ai fait un déni, j'ai tout cassé. J'ai cassé ma coquille à coups de marteau. Une coquille, c'est un corset plâtré pour dormir la nuit. Et j'ai brûlé mon corset dans la cuisine. Et puis après, je me suis mariée, j'ai fait des enfants, j'ai milité et j'ai oublié tout ça. J'ai fait un déni. Sauf que j'ai été rattrapée vers la cinquantaine où... tout doucement, la maladie, insidieusement, s'aggravait.
La maladie, c'est quoi? C'est une scoliose?
Oui, c'est ça, c'est une scoliose. Et à un moment donné, je prenais un degré par an. Puis à un moment donné, c'est devenu un écrasement thoracique.
Un degré par an, c'est-à-dire que tous les ans, vous courbiez dans un sens d'un degré?
Voilà.
Dans quel sens, alors?
Je faisais un S. Donc c'est une maladie de fille. Hein. Donc les scolioses sont idiopathiques, dites par la médecine, c'est-à-dire sans cause. Et en fait, il y a certainement des causes, puisque c'est une maladie à 90% de filles. Il y a certainement des raisons psychologiques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est une période assez difficile pour les femmes qui s'appelle la ménopause, conjuguée à un chagrin personnel qui était la perte d'un enfant, qui m'a fait perdre 10 degrés, prendre 10 degrés de courbure en un an. En un an, j'ai vieilli 10 ans. La défaite de la gauche, et j'étais très très engagée, et là j'étais rentrée dans le cabinet de Dominique Voynet pour monter le programme Emploi Jeune, puis après je suis allée chez Martine Aubry, chez Elisabeth Guigou, puis chez Guy Asquette à l'économie solidaire.
La défaite de la gauche en 2002 alors?
En 2002, tout s'est effondré, moi j'ai dit je reste, je sauve mes emplois. On était deux à faire ça, la première, elle avait un programme pour l'emploi des femmes. Elle est partie à l'hôpital en même temps que moi, avec un cancer du sein, et maintenant elle est décédée. Et en fait, si vous voulez, je m'occupais d'un programme d'économie solidaire. Et donc, il y a eu un harcèlement moral pas possible. On nous a fait chier, on nous a fait payer tout notre engagement. Mais moi, j'ai été à Bruxelles négocier des fonds sociaux européens. Et du coup, je suis passée par la tête du ministre pour sauver les emplois. Et donc, ça s'est payé de façon très grave. C'est-à-dire qu'à la fin, mon chef qui me faisait chier tous les jours et qui était absolument intenable, il n'osait même plus. À la fin, j'étais tellement pliée en deux. J'avais les dernières côtes qui frottaient sur l'os de la hanche. J'étais comme ça, je tenais plus debout.
Alors là, on se lève pour aller voir parce qu'il y a, la quiche qui, qui va être
donc
cuite.
Donc on peut peut-être la sortir et la laisser un peu refroidir.
La galère, c'est que j'étais tellement pliée et tellement abîmée que plus personne ne voulait m'opérer. Donc je suis allée voir les 7 plus grands chirurgiens de France. Ils ont tous refusé. Puis j'ai vu un dernier chirurgien qui m'a dit « Ah, moi je veux bien, mais à 3 conditions. » Alors, vous avez un surpoids, évidemment. Comme je mesurais 1m78 et j'étais descendu à 1m63, j'avais gardé mon poids, donc c'était plus du tout valable, puisque j'avais perdu 18 cm. Donc j'avais 10 kilos de trop. Vous maigrissez. Bon. Et ensuite, vous retrouvez de la verticalité, parce que 170, c'est pas possible. Et vous récupérez de la capacité thoracique, parce qu'avec un 6, c'est impossible. Bon. Comme c'était le seul qui m'avait dit oui, que tous les autres m'avaient dit non, je me dis bon, objectif, j'y vais. Et puis à rentrer chez moi, je me dis mais comment je fais pour récupérer de la respiration? Comment je fais? Comme j'aime beaucoup Cergy, que je suis dans un endroit magnifique, et là il y a une très grande descente de l'Oise, qui s'appelle l'Axe Majeur, il y a 376 marches.
Pour aller vers le lac, là?
Pour aller vers le lac.
Parce que là, derrière chez vous, on voit, c'est hyper vert.
Je vais monter les marches, et je vais essayer de récupérer de la respiration sur chaque marche. Donc avec un corset, deux cannes, le matin, parce que le soir j'étais paralysée, parce que j'avais le frottement costoïa qui m'empêchait de marcher. Et puis tous les matins, voilà, je me suis foutu au bas des marches et puis j'ai monté. Voilà, et je mettais 2 heures. Et alors en fait, c'est un parcours sportif. Alors vous avez une communauté de Maliennes qui est pas loin, de Maliens qui sont pas loin. Alors vous avez des malabars de 2 mètres de haut qui font leur truc sportif et tout, et qui passaient, qui traçaient. Et puis moi j'étais là, avec mes cannes, mon corset, j'étais là 2 heures et tout. Puis eux traçaient comme des bêtes. Et puis au bout de 6 mois, ils me connaissaient. Ils me disaient, ça va Jacqueline? Comment ça va aujourd'hui? Et à la fin, je mettais 20 minutes. Donc je téléphone au chirurgien. Je dis, bon, ben, ça y est. Vous m'avez fixé 3 objectifs. Je prends un rendez-vous. J'arrive. Soufflé dans le spiromètre. 2,25. Alors, le médecin dit, non, l'appareil est pas remis à zéro. Remettez à zéro l'appareil. Je souffle. 2,25. Je me pèse, moins 10 kilos. Je mesure la flèche avant, 95. Donc, c'était pas merveilleux, mais c'était mieux que 170. Donc, le mec regarde son assistant. Puis, il dit, mais vous êtes opérable, alors? Puis, je lis dans ses yeux qu'en fait, il m'avait fixé une barre impossible. C'est-à-dire qu'il avait été moins méchant que les autres. C'est-à-dire qu'il n'avait pas osé me dire non. Mais il était sûr que j'y arriverais pas. Alors je le regarde, puis je lui dis, mais vous êtes pire que les autres. Et puis je lui dis, c'était sûr que j'y arriverais pas. Alors il a dit, mais oui, je pensais que j'y arriverais pas. Vous n'avez pas osé me dire non. Alors je lui dis, mais je le regarde dans les yeux, puis je lui dis, mais vous savez pas ce que c'est qu'une militante? Alors le mec, il me dit, non, je sais pas ce que c'est qu'une militante, mais je vais en avoir besoin. Parce que je vais vous faire un truc que j'ai jamais fait pour personne. Je vais vous faire 3 opérations différentes, mais j'ai jamais fait 3 hein, sur la même personne. Vous allez en baver comme un turc. Et j'aurais besoin que vous... Et je le fais parce que vous êtes militante. Si vous n'étiez pas militante, je vous ferais pas. Ben, je m'étais pas trompé.
À la quiche, alors.
Jacqueline, elle s'appelle Jacqueline Lortois, vous avez compris, c'est une auditrice. Elle a laissé un jour un message sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Et puis, eh ben voilà, on est allé la voir. François Ruffin est allé la voir. Je vous donnerai tout à l'heure la façon de trouver son blog. Je peux vous le dire tout de suite si vous ne restez pas jusqu'au bout. C'est www.ressources-solidaire.org. www.ressources-solidaire.org. Et puis là, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre sur la droite de la page et vous accédez au blog de Jacqueline. Et là, elle vous expliquera ce que c'est que ces minutes d'essentiel. Mais elle va peut-être pouvoir nous l'expliquer maintenant.
Là, vous sortez des radios.
Je sors des radios pour montrer un peu mon malheur. Et donc voilà, et alors ce que vous voyez, le pointillé que vous voyez là, c'est le dos. Les chirurgiens ont repoussé mon dos jusque là, c'est-à-dire ça, c'est ce que je suis devenu.
Donc voilà. Ils ont repoussé la colonne vertébrale.
J'ai perdu 20 cm de tour de taille. Je suis passé du 56 au 42.
C'est un sacré régime à 26 ans alors.
Ma fille a été obligée à sortir de l'hôpital de reprendre tous mes pantalons avec des élastiques et des...
Donc on a repoussé votre colonne vertébrale de 5 à 10 cm à l'intérieur. Voilà. Donc il y a deux tiges métalliques verticales. Et il y a des tas de vis.
Il y a une forêt de vis. Alors, c'est à l'échelle 1. Donc, c'est les vraies grandeurs.
Putain, ils sont immenses, vos vis.
Ben oui.
Là, vous écrivez que votre corps a été malmené, pendu, ouvert, étiré, scié, percé, vissé. Enfin, c'était Castorama.
Oui. Quand on est opéré, qu'on ne peut plus bouger, quand on est en réanimation, il y a la souffrance, il y a évidemment, mais on est sous morphine, hein, donc on est complètement stone. Et donc, ça va. Le plus difficile, c'est le temps. Alors, heureusement, j'étais installée dans une très grande pièce qui dominait la mer. Alors, j'ai essayé de.
C'est à Berck-sur-Plage, c'est ça?
À Berck-sur-Mer, oui. Donc, les fenêtres sont ouvertes. On peut pas dormir, évidemment. Et il y a l'aurore, il y a les couleurs. Donc, bien sûr, on ne voit pas la mer, mais on voit des nuages et on voit des mouettes qui traversent le paysage et on voit les couleurs. Donc, on entend la marée haute et la marée basse, parce qu'on se branche à la nature. Parce que quand on est, soi-disant, à légumes, on se relie au cosmos, on s'accroche au vivant, à la nature et au cosmos. J'étais comme un coq en pâte à Berck-sur-Mer. Le problème, c'est que j'ai subi ce qu'on appelle les pôles d'excellence. Et donc, à Berck-sur-Mer, la chirurgie était remarquable. Hein, c'est la meilleure chirurgie du rachis de toute l'Europe. Donc, on a gardé la chirurgie. Par contre, on a fermé tout le reste. Donc, autrefois, vous aviez ce qu'on appelait une plateforme de soins. On entrait malade. On était retapé. Il y a une période difficile qui prend 4 mois pendant les prises de greffe. Il ne faut pas bouger. Donc, à ce moment-là, il faut rester immobile. Et puis après, on passe en rééducation fonctionnelle. Et au bout d'une dizaine de mois, d'un an, on est bon pour le service. Là, on a supprimé la plateforme de soins. On n'a gardé que la chirurgie. Et donc, j'ai été remarquablement soigné. Et puis après, coup de pied au cul. Démerdez-vous pour trouver la suite de la chaîne de soins. J'ai été transférée à 11 novembre. J'ai vu débarquer, alors que moi je suis allongée, une ambulance qui est arrivée pour un transport assis. Donc je lui ai dit, ben non, ça va pas, moi je suis allongée. Donc je me suis retournée dans ma chambre, j'avais, comme je peux pas mettre mes chaussures, parce que je peux pas me pencher, j'avais mes chaussures aux pieds, mon lit avait été défait, je me suis retrouvée sur une chaise en plastique, sans bouffer, sans médicaments, à attendre qu'une ambulance couchée vienne me rechercher. Donc je suis arrivée là-bas, dans une maison de repos. Alors c'est ça, c'est là où j'ai un gros sur la patate par rapport à la sécu. C'est que comme, si vous voulez, quand vous avez des prises de greffe qui prennent, des greffes qui doivent prendre, eh bien, vous bougez pas. Donc on vous facture pas d'actes. Vous n'avez pas le droit de faire de kiné, vous devez faire juste des petits exercices de mobilisation dans votre, avec un carnet dans votre lit. Surtout pas de kiné intempestive. Donc pas d'actes à facturer. Vos fils ont été retirés en chirurgie, donc vous n'avez pas d'infirmière, donc vous avez juste des soins pour vous laver les pieds, pour vous laver, des choses comme ça. Donc on facture pas d'actes. Du coup, qu'est-ce qu'on m'a fait? Eh ben, on m'a collé dans une maison de repos.
Et du coup, c'est comme on facture pas d'actes, ça rapporte pas à l'hôpital.
On vous colle dans une maison de repos. Et moi, j'étais le seul cas lourd. Et donc, moi, je me suis retrouvée avec des effets secondaires du topalgique et je me suis mis à avoir des crises de ce qu'on appelle les vertiges de Ménière. Et donc, les vertiges de Ménière, c'est des espèces de... C'est un truc absolument affreux où c'est des problèmes d'équilibre et d'oreille interne. Et donc, tout le paysage tourne, on perd l'équilibre, on a l'impression d'entrer dans un puits, dans un trou noir, on a l'impression qu'on va mourir la minute suivante. Je hurlais des heures et des heures dans mon lit. Or, dans une maison de repos, il n'y a pas de médecin à demeure, parce qu'on fait des économies. Donc le médecin arrivait de 17h à 19h. Donc moi, je suis arrivée un 11 novembre, c'était un samedi, sans médicaments, sans dossier. Et je suis restée à hurler samedi, dimanche, lundi. Et c'est lundi à 17h que le médecin m'a vue. Il y avait un gardien de nuit, parce qu'il n'y a pas d'infirmière la nuit dans une maison de repos. Donc le gardien de nuit m'a donné de la glace pendant la nuit. Or, quand vous avez des douleurs musculaires, il faut du chaud. Après, ça a duré comme ça jusqu'au lundi soir, donc 3 jours d'enfer.
c'était à se flinguer. Et c'est là que j'ai appelé ma copine Ciao Sauvage, qui est une suggestopédeute. Si vous voulez, elle met les gens dans un état de bien-être, elle active des souvenirs heureux.
Alors, quels sont vos souvenirs heureux ?
Alors voilà, donc mes souvenirs heureux, c'est des souvenirs d'enfance, parce que ma grand-mère avait une grande propriété magnifique. Et donc c'est le pré de la Ganderie, avec des chevaux, avec des moutons, des sonnailles, et un petit ruisseau où on pêche à la main des écrevisses transparentes qu'on voit avec des petites têtes d'épingles. Et donc j'ai écrit un texte sur ce paysage-là, pour essayer de sublimer cette douleur. Mais là, j'avais un problème très précis, qui était que j'avais des cristaux dans l'oreille interne, que je ne pouvais pas les traiter par manipulation, et qu'il fallait absolument que ces cristaux soient supprimés, pour arrêter ces vertiges de menhir. Donc, j'avais une grand-mère musicienne, concertiste, qui s'appelait Odile. J'ai donné à toute une série de parties de mon corps des noms. Donc j'ai donné à mon oreille interne le nom de Odile et je me suis fait la liste de toutes les musiques agréables que j'avais entendues dans ma vie et mentalement je me suis passé des musiques. Donc j'ai écrit une lettre à Odile.
Ça, c'est donc vous écrivez « Chère oreille, chère Odile, tu te souviens des sons qui ont baigné ton enfance dans les années 50 quand je dormais dans la salle à manger de mon grand-mère parce que chez nous, il y avait peu de place. Quand elle me croyait endormie, elle s'installait à son piano Erard, acheté en 1900 et elle jouait tout doucement des nocturnes de Chopin, une berceuse de forêt, un aria de Bach, des romances sans paroles de Mendelssohn, avec une délicatesse et une sensibilité telle que je n'ai jamais pu écouter ces morceaux en entier joués par quelqu'un d'autre. »
Voilà. Et donc, je me suis passé toutes mes musiques préférées.
Et vous avez un grand iPod dans votre tête, vous.
Et donc, voilà. Et donc, en 2 mois, j'ai fait dissoudre les cristaux. J'y suis arrivée. Et alors, donc, ça m'a donné l'idée de faire toutes sortes d'autres choses. Du coup, j'ai donné des noms à mes vertèbres et je leur ai écrit des lettres. J'avais mal en L5. Pas difficile.
L5, ça veut dire quoi ?
C'est la 5e lombaire, c'est la dernière, c'est la plus basse. Alors, par exemple, j'avais mal en L5, pas de problème, j'écrivais une lettre à Louise. Donc L5, c'est Louise. Chère Louise, tu es la plus fatiguée, tu es la plus vieille, etc. Mais remercie-moi, chère Louise, je t'ai outillée. Tu as maintenant des belles tiges, des belles colonnes de part et d'autre de toi. Tu as un beau disque tout neuf alors que tu avais une feuille de papier à cigarette. Et Louise, bah, lâche-moi les baskets. Maintenant, Louise, tu peux te reposer. Pose tes valises. Finalement, tu n'as plus besoin de me faire mal. Et Louise se calmait. Voilà.
Pour faire face à la douleur, vous avez testé à peu près tous les rayons des pharmacies, mais finalement, vous avez trouvé notre méthode.
C'était un samedi où les choses allaient de mal en pis et je pétais un câble et j'étais au bord du suicide. J'ai appelé ma copine Thérèse, une féministe qui a 80 ans aujourd'hui, qui habite Montreuil. Alors que moi, j'avais 20 ans en 68, donc moi j'étais couilles croisées, plétex.
Couilles croisées, plétex, ça veut dire quoi ça?
Ça fait allusion à une publicité de soutien-gorge plétex. C'est-à-dire, ça s'appelait cœur croisé plétex, c'était un soutien-gorge qui se croisait devant les nichons. Et Coluche l'avait transformé en couille croisée plétex, qui indiquait le mec qui devait se serrer la ceinture parce qu'il draguait une nana, et puis tout d'un coup, finalement, elle avait beau avoir une mini-jupe, un duc, et être très libérée, quand il s'agissait de passer à l'action, il n'y avait plus personne. Voilà.
Et donc ça, c'était vous à 20 ans là.
Moi, c'était moi, j'étais timorée, très peu libérée, et très conventionnelle. Et en fait, je remercie les femmes de 40 ans à 68 qui, eux, accrochaient leur soutien-gorge aux grilles du Luxembourg. Et donc, Thérèse Claire, à cause de ça, je la remercie. Alors, elle a pété un câble en 68 et elle a abandonné tout. Et elle a décidé de s'occuper d'elle-même.
Elle a abandonné tout, c'est-à-dire ?
Elle a abandonné le mari et elle travaillait dans un atelier de couture du Sentier. Elle a tout plaqué.
Et les enfants aussi ?
Non, elle a gardé ses 4 enfants et elle a décidé de s'occuper d'elle-même. Et comme elle prétendait qu'elle ne savait rien faire, elle a décidé de faire de la cuisine et de faire la fête chez elle, à Montreuil, et d'inviter des gens. Alors au début, elle avait 10 ou 20 personnes et à la fin, elle louait la Bourse du Travail de Montreuil et ça lui est arrivé de faire des choses de 1000 personnes. Et donc Thérèse m'a tout appris du féminisme, m'a aussi appris tout de la sexualité, parce qu'elle faisait des ateliers de sexualité dans son appartement, et elle vénérait la déesse Aphrodite. Et en fait, quand ce fameux samedi du mois de mars, je me sentais extrêmement mal, j'ai appelé Thérèse au secours en lui disant « j'en peux plus, j'en ai marre, je souffre trop ». Thérèse m'a dit « bah, écoute, défends-toi et fais un appel ». Voilà. À la suite de ce coup de téléphone, j'ai réfléchi et je me suis dit « l'émission que j'aime le plus et que je préfère, c'est Daniel Mermet ». Je trouve que cette émission est géniale. Je trouve que c'est extraordinaire.
Il ne faut pas en faire trop à ce moment-là.
Je me suis dit, je vais lancer, puisqu'il y a un répondeur sur France Inter, j'essaye. Donc j'ai envoyé un message d'amour. Ça a touché à certains Pascal. Donc Pascal m'a envoyé un message magnifique qui m'a complètement regonflé. Et donc ça m'a donné l'idée des histoires de minutes d'essentiel. Parce que donc il a dit des choses essentielles, moi aussi. En fait, j'avais le sentiment d'avoir un peu raté mon opération, parce que il y a des moments où je doute beaucoup. Et c'est tellement difficile que...
Là, ce que je lis sur votre blog, d'accord ? Vous dites que vous décidez alors de compenser les médications par de l'affection et de la solidarité.
Oui.
En pratiquant chaque jour des minutes d'essentiel. Pendant 5 minutes, vous dites à votre interlocuteur, interlocutrice, pourquoi elle a été importante dans votre vie et comment. Pendant 5 autres minutes, cette personne vous renvoie l'ascenseur. Voilà. Donc c'est un massage, massage de l'âme réciproque, c'est ça ?
Ouais, c'est exactement ça. Je vais aborder un sujet d'alcool. C'est la question de handicap et sexualité. Au bout d'un an d'hôpital, je me suis dit quand même, j'aimerais bien savoir si je fonctionne. Donc j'ai appelé un copain que je connais très très bien. Il m'a dit, écoute, tu es la seule personne à qui je puisse demander ça. J'aimerais bien faire un essai, mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Donc, très gentiment, il est venu. Ça a été une catastrophe. Le résumé est le suivant. Je ne peux pas bouger. Je ne sens rien. Et j'ai mal partout. Et pour le mec, c'est un calvaire. Je suis obligée de faire la position de l'étoile de mer. La position de l'étoile de mer, c'est la tête qui est toute droite. C'est Thérèse qui m'a appris ça. Et donc, les deux bras écartés, les deux jambes écartées, et attendre que ça se passe. Parce qu'on ne peut pas bouger.
Donc, j'ai fait un constat que c'était vraiment horrible et que comme j'avais vécu des choses suffisamment merveilleuses et suffisamment agréables avec des gens merveilleux, j'avais pas envie de vivre des choses médiocres et d'autre part, j'avais pas envie de gens d'offres compassionnelles. Parce que j'ai de temps en temps des offres compassionnelles et ça, j'en veux pas. Moralité, j'ai décidé de tout balayer et que c'était terminé.
Bon. Ça, c'est un message pour Pascal aussi, de Brest.
Ah oui, c'est un message pour Pascal à Brest. Et alors donc, j'ai décidé d'utiliser la méthode scaphandre des papillons. Parce que Jean-Dominique Bobby, il a...
Jean-Dominique Bobby, c'est cet auteur qui était complètement handicapé, avait plus les moyens de décrire, et écrivait en clignant ses paupières.
Et donc, il était à Berck-sur-Mer aussi. Il ne peut plus manger, il a des tuyaux partout. Et donc, dans un chapitre, il se fait des menus. Il se visualise des menus puisqu'il ne peut plus manger. Voilà. Et donc, moi, j'ai décidé de faire pareil. Et j'ai décidé de faire des menus avec mes bons souvenirs. Donc, je me suis fait une liste de bons moments que je visualise, et après je me suis dit, bon, est-ce que je peux, sans bouger mentalement, uniquement visualisant les bons souvenirs, arriver à un orgasme? J'ai mis un an avant d'y arriver. J'y suis arrivée, maintenant j'ai une vie sexuelle heureuse et tout à fait normale.
Bah, tout à fait normale, c'est peut-être pas ce qu'on pourrait dire.
Naturel, mettons. Et alors, je me suis dit, après, faut quand même que je prévienne les mecs qui figurent à mes menus. Il faut quand même que je les prévienne, c'est la moindre des choses. Donc j'ai appelé, j'ai appelé les personnes qui figuraient à mes menus pour les prévenir. Alors, par exemple, j'ai gardé un très bon souvenir d'un gars qui, quand il faisait l'amour, il s'abandonnait complètement comme un enfant. Et il disait, comme une espèce de chanson qui scandait, que c'est bon de faire l'amour. Que c'est bon de faire l'amour. Donc là, j'ai gardé la bande-son, parce que je trouve ça vachement bien. Donc je me repasse la bande-son. j'ai quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui est un polytechnicien. Je lui ai dit que mon père étant scientifique, quand j'étais petite, il bossait les premières décimales de pi. Et donc, qu'à cela ne tienne, c'est le seul homme qui réussit à me faire un orgasme en me citant les 100 premières décimales de pi.
Oui. Comme votre père aurait pu le faire.
Oui, oh là. Non, certainement pas. Attention. Donc voilà, ça c'est un exemple. Alors il y a un autre exemple, je connais un mec qui est très très bien du bas. Par contre, il fume comme un sapeur et il a les dents complètement gâtées. Donc j'ai pris le bas, j'ai enlevé le haut. Et le haut, j'ai mis quelqu'un d'autre qui avait de beaux yeux changeants, vert et bleu. Et qui ressemblait un peu à mon lac et dans lequel j'aimais bien me baigner. Voilà.
C'était un reportage de François Ruffin, première diffusion le 19 juin 2009. Merci à Jacqueline Lortiwa. Le site de l'association Ressources Solidaires, qui héberge entre autres le blog de Jacqueline, www.ressources-solidaires.org. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique Émissions, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Mathias Alléon et Serge Viguier. Réalisation Coy Nguyen et Raphaël Moutarde, assisté d'Agnès Lebot, chef du répondeur Catherine Pinto. Le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, c'est Noël et France Inter vous souhaite de belles fêtes et de jolis flocons. Ce soir, de 21h à 22h, l'émission Parking de nuit s'est mise sur son 31. Sophie Loubière vous propose lecture de romans, histoire et tradition de Noël, polar noir et sapin en nougatine et légende en sucre glace. Ce soir, sur France Inter, Parking de nuit à 21h. Joyeux Noël!
Nous prépare de bon.
Tu vas voir, c'est du bonheur. Je ne cuisine que des produits de qualité, tous de la région Aquitaine.
Je peux goûter?
L'Aquitaine.
Le goût du bonheur.
On a tous un peu bu, tu sais. Je préférais vraiment que tu partes pas. Imagine que t'aies un accident ou que tu renverses quelqu'un. Tout ça, ça peut arriver très vite, hein. Allez, reste dormir chez nous plutôt. Tu repartiras demain matin.
13 secondes peuvent suffire à sauver une vie. Ne laissons pas quelqu'un qui a bu reprendre la route. Sécurité routière, tous responsables. C'était un message du ministère du Développement Durable.
Moi, à Noël, je l'ajoute tradition, foie gras, dinde, marron.
Tradition lourde, tradition au secours. Moi, je l'ajoute moderne avec la méthode norvégienne. J'achète du cabillaud venu tout droit des eaux pures des fjords de Norvège. Fraîcheur et finesse pour des recettes festives et faciles.
Cette année, pensez au cabillaud de Norvège et jouez avec la méthode norvégienne. Jusqu'au 10 janvier, gagnez plein de cadeaux pour vous régaler sur cabillauddenorvège.com.
Du cabillaud de Norvège. Je suis dinde parfois.
Il est 16h, vous êtes sur France Inter. Les informations, Dominique Delaroy. Bonjour.
Bonjour. Fatigué mais en bonne santé, Benoît XVI a prononcé son traditionnel message Urbi et Orbi à la ville et au monde. Depuis le balcon surplombant la place Saint-Pierre, le pape semblait remis de ses émotions. Hier, il est tombé à terre, renversé par une femme qui s'est jetée sur lui au début de la messe de minuit. Dans son message, Benoît XVI a évoqué ce matin le conflit en Terre Sainte, le sort des chrétiens d'Irak. Il a également appelé à dépasser la mentalité égoïste et à respecter les plus faibles. Il a ensuite souhaité un joyeux Noël dans 65 langues. Comme chaque Noël, la reine Elisabeth II d'Angleterre a également prononcé son traditionnel message, un message consacré d'abord à la crise. 2009 a été une année difficile pour beaucoup, a dit la reine, notamment pour ceux qui sont touchés par les conséquences de la récession économique. Message consacré également à l'engagement britannique en Afghanistan. La reine, qui est aussi chef des armées, a rendu hommage aux soldats britanniques qui se battent sur place. Le nombre de militaires britanniques tués cette année en Afghanistan a franchi la barre symbolique de 100 début décembre. Une lourde peine pour Liu Xiaobo, malgré les appels à la clémence des ambassades étrangères. Le dissident chinois a été condamné à 11 ans de prison pour avoir appelé à la réforme politique et à la fin du monopole du Parti communiste en Chine. L'Union européenne, les États-Unis et l'ONU ont condamné la lourdeur de ce verdict. La Cour suprême serbe confirme la peine de 40 ans de réclusion infligée à Radomir Marković, le chef de la sécurité de l'ancien président Slobodan Milosevic. Il a été reconnu coupable d'avoir organisé une attaque meurtrière contre un dirigeant de l'opposition en 1999. À Paris, ça roule un peu mieux sur la ligne A du RER, au moins 2 trains sur 3 à la mi-journée. Ça reprend tout doucement, reconnaît la CGT, mais les problèmes ne sont pas réglés. Nous sommes confrontés à des méthodes de management dictées par le pouvoir en place. On a affaire à un PDG télécommandé par l'Élysée, a déclaré l'un des responsables de la CGT en faisant allusion à Pierre Mongin. Des salariés de l'entreprise doivent encore voter samedi pour ou contre la poursuite de la grève. Terrible accident de la route ce matin près d'Avignon. 2 véhicules sont entrés en collision. Le bilan est de 3 morts et 2 blessés graves. 3 spéléologues sont toujours bloqués à 700 mètres de profondeur dans le gouffre de Romy, dans les Pyrénées-Atlantiques. Les 3 hommes, membres d'un club de spéléo de Lille, ont été surpris par la montée des eaux. Ils se sont réfugiés dans un endroit sec et sont sains et saufs. 10 de secouristes est descendue pour leur porter secours. 10 d'autres est attendue dans l'après-midi. Un réveillon de Noël nauséeux en Alsace. 12 convives ont été légèrement intoxiqués par des émanations de monoxyde de carbone, sans doute à cause d'un chauffage défectueux. Ils faisaient le réveillon dans une maison forestière à Ribeauvillé, dans le Haut-Rhin. Il a fallu quand même les conduire à l'hôpital pour des examens de contrôle. Ils en sont sortis rapidement.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Émission spéciale Liban cette semaine. Nous sommes à Beyrouth avec Jean-Marie Gustave Leclésio pour un entretien exclusif autour de la francophonie. Vénus Corrigata, grand prix de poésie de l'Académie française, vous emmènera quant à elle dans le quartier de son enfance, sur les traces de son passé. Nous parlerons de la ville et de sa modernité avec l'écrivain Rami Zayn. Nous irons aussi chez Mazen Kerbadj, un dessinateur qui a observé la guerre depuis son balcon. La librairie francophone spéciale Beyrouth, c'est ce samedi à 17h sur France Inter et sur franceinter.com.
France Inter, la différence.
Bientôt 16h04, on retrouve le carrefour de l'Odéon avec vous, Frédéric, bonjour.
Bonjour Dominique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, c'est très joyeux Noël, vous l'avez déjà entendu, mais enfin ça me fait plaisir de le dire aussi, et Noël ben, c'était pour beaucoup le réveillon hier soir, alors j'espère que ça se passe bien, je parle de la digestion, et puis que vous êtes un peu au repos, ou si vous êtes au travail, je pense bien à vous. Et moi ce travail, il me plaît beaucoup d'être avec la musique et vous-même justement dans ce carrefour sur France Inter, et je vous propose quelques disques nouveaux. Pour commencer, un jeune pianiste hongrois, ce n'est pas le petit Jésus, mais c'était un enfant prodige, maintenant il est devenu un adulte, un jeune adulte, il faut le bien dire, tout à fait sympathique et brillant. Il s'appelle Adam George et il dit des choses touchantes. J'ai déjà parcouru un chemin important, mais il me reste une longue route encore. N'oubliez jamais que je viens des pays de l'Est et d'où je viens, ne pas l'oublier, ça pourrait être un de mes rêves aussi. C'est-à-dire, voilà, il est content de sa Hongrie, fier de l'Académie Franz Liszt de Budapest où il a étudié. Et il continue, le chemin est aussi un but en soi. Être en chemin, en partageant un message, est important pour moi. Rester humain en toutes circonstances pourrait être ma devise. Bah, comme Franz Liszt, qui était tellement généreux qu'il paraphrasait souvent la musique des autres compositeurs, il les faisait ainsi connaître. Voici par exemple un extrait de paraphrase sur Rigoletto de Verdi. Paraphrase sur Rigoletto de Verdi, interprété par Adam George. Ça s'écrit Georgie en français, mais ça dit George. D'après mes amis hongrois. Et ce jeune pianiste, ben, il va encore certainement nous toucher longtemps, une carrière qui s'envole. Et on espère le retrouver en France prochainement. Un enregistrement tout à fait intéressant, encore un autre, avec Victoria Moulova, qui est une violoniste russe. Donc de la grande école soviétique, avec un son magnifique, beaucoup de technique. Et puis Victoria se penche sur la façon de jouer baroque. Donc elle a enregistré pas mal de pièces avec un instrument monté à l'ancienne, avec des cordes en boyaux. Ce sont des boyaux de mouton, faut pas inquiéter les amateurs de chats, par exemple. On a souvent dit que c'était ça, c'est pas les pauvres chats. Non, c'est pas eux qui fournissent, ni à l'époque, ni maintenant, ni autrefois, ni aujourd'hui, les cordes, ce sont des moutons. Et puis, elle joue aussi un archet baroque, un peu plus court. Et puis voilà. Puis voilà le résultat. Une violoniste dite moderne prend des outils à l'ancienne. Et c'est toujours très intéressant parce que c'est une très grande violoniste. Donc voici le prélude de la troisième partita en mi majeur. Partita, je rappelle, c'est une suite, hein, plusieurs parties, tout simplement. Et vous allez entendre cette construction lumineuse. C'est comme un vitrail au soleil du printemps. C'est plein de délicatesse, cette interprétation.